En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 3 décembre 2007, le ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a prononcé l'éloge de son prédécesseur, Bruno Leveux, dont il a lu la notice biographique en grande salle des séances devant ses confrères et de nombreux invités. Xavier Darcos a été élu le 26 juin 2006 au fauteuil numéro 7 de la section morale et sociologie de l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons-le en grande salle des séances.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je vais évoquer devant vous la vie et les travaux de Bruno Neveux, auquel j'ai eu l'honneur de succéder dans cette compagnie de l'Académie des sciences morales et politiques. Une aurore de printemps à Raboué, le quartier résidentiel de Beyrouth. Je cite... Dès 4 heures du matin, les coqs et les mouezzines se disputent le jour. La mélopée de la croyance court sur les toits, tandis qu'enfle de minute en minute le cœur d'oiseau qui l'accompagne. Fenêtres grandes ouvertes, les parfums se lèvent en même temps que la lumière. C'est sur une terre pareille que peut commencer la croyance. Cependant, un tel moment magique, évoqué ici par le poète Jean-Michel Maulpois, au petit jour du 24 mars 2004, alors qu'il était l'hôte du patriarche Melkite, sa béatitude Georgios III, que Bruno Neveux s'endormit pour toujours. Croyant fervent, il n'aurait sans doute pas rêvé d'un cadre plus opportun pour entrer dans l'au-delà. Mais... rétifs au dessein de la Providence, ses amis furent surtout abasourdis. Leur chagrin s'augmentait de désarroi face à un décès prématuré, imprévisible. Que la spiritualité de Bruno Neveux serve ici de consolation. Il avait eu toute sa vie le regard et la pensée tournés vers la Terre Sainte. Un de ses proches m'a dit qu'il avait même manifesté le désir explicite de mourir au Liban. Il aurait vu dans cette fin le doigt de Dieu et une forme de sa grâce, grâce dont ses lectures jansénistes ne lui avaient rien laissé ignorer. Il quitta ce monde alors qu'il se replongeait pour quelques jours au cœur de la tradition chrétienne, maintenue en terre libanaise, en dépit des vicissitudes d'une histoire troublée. Cette tradition lui était source de vie, source d'espérance. Et depuis longtemps, il était un paroissien assidu de l'église Saint-Julien le Pauvre, cette paroisse grecque-catholique de Paris, où la liturgie de Saint-Jean Chrysostome est célébrée en grec et en arabe, selon le rite melkite, lui semblait un refuge, à lui, comme aux autres catholiques désorientés parfois, par la liturgie appauvrie qui pourrait être célébrée ailleurs. Né à Grenoble le 4 novembre 1936, il y fit ses études primaires et secondaires, où il brilla immédiatement en latin, en grec, en histoire. Ses succès l'orientèrent vers la faculté des lettres de l'université dauphinoise, où il obtint sa licence et le diplôme d'études supérieures en lettres classiques, fondation solide de tout humanisme. Il s'intéressa dès cette époque aux pères de l'Église, latins et grecs, puis aux théologiens et canonistes des époques plus récentes. J'étais attiré par les méthodes et les carrières de l'érudition, avoua-t-il modestement dans une note autobiographique. Il se dirigea donc vers l'école des Chartes, où il entra en 1959, il en sortit en 1963 archiviste paléographe, suivant l'impulsion de sa vocation originelle. Sa thèse d'école était consacrée à Sébastien Nonin de Tillemont, 1637-1698, le grand historien ecclésiastique du XVIIe siècle, un proche de l'école de Port-Royal, dont les écrits sont consultés encore aujourd'hui pour la connaissance des six premiers siècles du christianisme. Cette étude, publiée en 1966, s'était enrichie des enseignements rigoureux dispensés à l'école des Chartes, ainsi qu'à la Sorbonne, où le docte et patient Henri Gouillet exposait l'histoire de la pensée religieuse. De même, à l'école pratique des hautes études, Bruno Neveu bénéficia des cours donnés par deux personnalités qui l'influencèrent, Jean Orcibal, chargé de l'histoire du catholicisme moderne, le plus fin connaisseur français du jansénisme et de Fénelon, et Gabriel Lebras, spécialiste à la fois de l'histoire du droit canon et de la sociologie religieuse, science dont il fut quasiment le fondateur. Ainsi, Bruno Neveu put-il appliquer les règles de la critique philologique et historique aux textes de nature doctrinale vers lesquels ses curiosités le portaient. Pensionnaire à la Fondation Thiers de 1963 à 1966, Bruno Neveu y trouvera l'agrément et le piquant d'un commerce quotidien avec des jeunes agrégés, normaliens ou juristes, au nombre duquel déjà Jean Tullard et Marc Fumaroli. Certains affectaient déjà ce conformisme débraillé et vindicatif où perçait le futur 68art. Mais ils se méfiaient face à Bruno Neveu de son ironie. Ou bien ils cédèrent à son esprit conciliant et urbain. Lui-même s'émancipa un peu, abandonnant son quant à soi, sauf vestimentaire, s'ouvrit à la vie sociale plus animée et plus éclectique. Et c'est dans cette institution bigarrée qu'il put élargir son champ de vision vers des directions culturelles plus diversifiées, sans abandonner ses recherches à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, où il prépara sa thèse de doctorat de troisième cycle. Ses premiers travaux, remarqués et publiés rapidement, lui ouvrirent la voie vers l'École française de Rome, où il fut admis en 1966. Grâce à une bourse de recherche du CNRS, il put prolonger son séjour romain pendant 7 ans, jusqu'en 1973. Dans cette cité d'exception qui repose de nos capitales ambitieuses, écrit-il, il se consacre à ses recherches dans les divers dépôts d'archives, dans les bibliothèques. Bruno Neveu trouve un domicile sur le Petit Aventin, près de Saint-Sabat. Imaginons ce jeune humaniste, plein de sensibilité, riche d'attentes, éprouvant le bonheur indicible dans ce milieu romain subtil et raffiné, dans les rites d'une église catholique qui n'avait pas encore cédé sur le culte sacré ou sur la beauté des mystères, et dont il aimait les traditions et les liturgies. Pratiquant fidèle, il essaie, comme il dit, diverses paroisses, avec une préférence pour la Trinité des Monts. Il passe ses matinées en investigation dans les inépuisables collections manuscrites imprimées de la Bibliothèque Vaticane de Sixte V et il plonge dans les riches bibliothèques romaines. Les après-midi, il explore la ville éternelle, rend visite à d'autres chercheurs, tisse des liens avec les érudits romains, souvent des membres du clergé, réguliers ou séculiers. Et le soir, comme s'en souvient son ami Marc Fumaroli, combien de conversations animées et sérieuses se prolongeant bien au-delà du coucher du soleil, interrompues par la visite d'une église poème inconnue croisée au passage et s'achevant à l'heure de la cena dans quelques trattoria. Bruno Neveu se sent bientôt à l'aise dans le monde international de la curie romaine. Il fréquente le recteur de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne, le père Félix Darcy, un dominicain, fin connaisseur de Rome, de ses antiquités, comme de sa société ecclésiastique. Il est accueilli avec amitié par les prélats français, notamment par le préfet de la maison pontificale, Mgr Jacques Martin. Il noue des liens affectueux qui ne se desserreront plus, comme avec le futur cardinal Paul Poupart. Les professeurs des universités pontificales le reçoivent familièrement. Dans ce cadre épanouissant et fervent, ses travaux sont féconds, mêlant l'érudition et l'élégance à l'image du milieu où il évolue. Il put alors publier deux solides ouvrages qui donnent immédiatement la mesure de son impressionnante productivité. D'une part, une biographie documentée de l'abbé de Pontchâteau, émissaire de Port-Royal auprès du Saint-Siège, et qui joua un rôle secret mais actif sous le pontificat rigoriste d'Innocent XI. Sébastien Joseph du Cambou de Pontchâteau, 1634-1698, et ses missions à Rome, d'après sa correspondance et des documents inédits. D'autre part, en 1973, les deux volumes d'une édition monumentale de la correspondance du nonce en France, Angelo Ranuzzi, 1672-1689. Ce nonce pontifical, auprès de la cour du roi Louis XIV, usa son entregent à tenter de dénouer les querelles du moment. Il les relate dans une correspondance qui couvre une période passionnante et animée avec les suites de l'Assemblée du clergé de 1682, les controverses en Sorbonne, la révocation de l'édit de Nantes, la chute de Jacques de Stuart et son exil à Saint-Germain-en-Laye, le conflit entre Louis XIV et Innocent XI sur la régale, les tensions liées aux activités jansénistes à Louvain ou en France. Comme on l'imagine, ces publications de longue haleine n'auraient pas été réalisées si Bruno Neveu n'avait pu demeurer à Rome au-delà des seules 3 années initialement dévolues à l'École française de Rome. Mais au printemps 1974, il lui fallut quitter Rome, à regret, pour revenir en France où il a été élu quelques mois auparavant, à compter du 1er octobre 1973, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans la 4e section, pour y dispenser un enseignement sur l'histoire des relations diplomatiques en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Il devait remplir cette fonction jusqu'à la fin de son activité enseignante en septembre 2002. L'intitulé de sa direction d'études, on le voit, lui permet de jeter plus grand les filets de ses investigations et d'ouvrir plus large les voiles de son intelligence énergique. Il traita cependant par prédilection des rapports entre la France et Rome durant les 2 derniers siècles de la monarchie, sujet qui, malgré une bibliographie déjà foisonnante, lui semblait d'une richesse toujours renouvelée grâce au recours systématique à des sources encore inexploitées. Peu à peu, au fil de ses cours et de ses recherches, Bruno Neveu a précisé la réalité historique et ecclésiologique de la notion de romanité, terme défini par opposition à toutes les formes de juridictionnalisme, dont le calicalisme, forme qui prétendait refléter l'état premier de la discipline et du gouvernement de l'Église. Pour identifier cette romanité par plusieurs approches, Bruno Neveu a tantôt interrogé des théologiens attaché aux droits et privilèges de la chaire de Saint-Pierre, tantôt observé la politique, suivie par le Saint-Siège dans ses rapports avec les puissances temporelles. C'est cette seconde optique qui fit le sujet de sa thèse d'État, soutenue en Sorbonne en 1979. Les épisodes du jansénisme et du quiétisme retinrent plus longuement son attention, évidemment. Il y révéla notamment comment les interminables et subtiles discussions jansénistes sur les diverses formes de la grâce, cachait en réalité une résistance nationale au magistère romain, les messieurs de Port-Royal s'estimant plus savants et plus pieux que les prélats romains ou que les membres de la congrégation de Jésus, qui étaient perçus par eux comme des étrangers, malgré tous leurs efforts pour jouer aux Gallicans frais et moulus. Mais plus globalement, Bruno Neveu examina et précisa la nature et l'exercice du munus docendi du souverain pontife, assisté par des congrégations organisées dès 1588. Ce munus docendi était à tort confondu avec le munus regendi de la juridiction pontificale. Il fallait donc, comme le fit Bruno Neveu, observer attentivement le fonctionnement et l'évolution de la congrégation du Saint-Office et celle de l'index. Il montrera que l'infaillibilité conférée au pasteur suprême, parallèle à l'indéfectibilité dont jouit l'Église dispersée ou réunie en concile, ne changeant jamais le principe directeur, mais constamment fit l'objet de clarifications ou d'ajustements sous le coup de controverses doctrinales, en particulier de l'interminable querelle janséniste poursuivie jusqu'au synode de 1786 et à la condamnation réitérée formulée par la bulle Auctorem Fidei de 1794. Cette réflexion a fini par prendre la forme d'un livre épais et luxuriant paru à Naples en 1993, unanimement salué comme un chef-d'œuvre de science et de pénétration, « L'erreur et son juge », remarque sur les censures doctrinales à l'époque moderne. Cet ouvrage, souvent en latin, parfois en italien, toujours sans traduction, comme pour en écarter les ignorants, éclaire l'enracinement historique, voire l'évolution des concepts d'hérésie et d'hétérodoxie, et donc d'orthodoxie, tels que le catholicisme post-tridentin les a élaborés dans la poursuite et dans la proscription de l'erreur doctrinale. Ainsi se trouvait délimité ce que l'on pourrait appeler l'intégrité dogmatique, en dépit d'obstacles épistémologiques et malgré la fluidité des jugements prononcés par les divers niveaux de magistère. Bruno Neveu cerne les débats qu'animaient les grands centres européens de pensée théologique, Paris, Salamanque, Louvain, Padoue, autour de tel ou tel aspect du dogme. Rome ne s'en mêlait pas, tant que cette spéculation ou ses commentaires ne menaçaient pas ce qu'elle considérait comme la vraie foi. En revanche, si le risque d'infection ou d'erreur se faisait trop pressant, le Saint-Office préparait l'anathème et l'exprimait avec des argumentaires précis et accablants. Ainsi se combinait une exploration théologique continue et un recadrage régulier d'une doctrine unique et mobile à la fois. Car seule l'Église catholique romaine soutient l'idée selon laquelle l'autorité de la foi ne doit pas se contenter de puiser dans la littérarité de la révélation, ce que les protestants appellent le sola scriptura, ni même dans une tradition close et intangible. Pour elle, le dogme se développe, il s'enrichit sans cesse, comme un arbre qui croît en restant à la fois lui-même et sans cesse différent, en se complexifiant, en s'adaptant. Certains dont je suis trouveront peut-être que cette plasticité a pu, dans la seconde moitié du dernier siècle, se montrer trop grande jusqu'à faire courir le risque à la doctrine de l'inconsistance. Je crois comprendre que sur le plan de sa piété privée, pudique mais vive, Bruno Neveu était plutôt de cet avis. Ces questions contentieuses relatives au droit de dire la foi étaient arides. Une fois l'œuvre accomplie, elles incitèrent Bruno Neveu à s'évader un peu et à se tourner vers des sujets moins théoriques. Ses recherches sur le modernisme le conduisirent à étudier la correspondance de Mgr Louis Duchesne, académicien, érudit et libéral, puis à porter un regard plus panoramique sur l'histoire religieuse et le droit public ecclésiastique du XIXe siècle, en se penchant notamment sur des correspondances diplomatiques et privées, françaises et romaines. Au fond, Bruno Neveu quittait les deux siècles, XVIIe et XVIIIe, où la foi avait été régie par les contraintes énergiques de la raison intellectuelle, de la rigueur juridique et de la volonté politique, pour aborder ce XIXe siècle plus sensible à la foi comme état d'âme, comme expérience intime. Ainsi s'élabora la thèse de doctorant en droit public que Bruno Neveu termina en 1993 et intitulée « Les facultés de théologie de l'Université de France, 1805-1885 ». Il soutint cette thèse à l'Université de Paris II, sous le patronage du recteur Jean Humbert, auquel d'ailleurs il succédera en 2001 dans notre Académie des sciences morales et politiques. Ce remarquable ouvrage valut à son auteur d'être en 2000 lauréat du prix Madeleine Laurent Portemer de notre Académie. Par son travail, Bruno Neveu rendait plus apparent les motifs qui ont donc condamné ses facultés, érigées unilatéralement par Napoléon, à végéter jusqu'à leur suppression sous les coups conjugués des anticléricaux et des ultramontains, qui se satisfaisaient très bien des instituts catholiques créés après 1875. Des facteurs contrastés, alliés, quoique contraires, ont joué dans l'histoire emblématique des facultés théologiques, à commencer par la persistance d'un gallicisme administratif parmi les élites, et ce qui devait rappeler à Bruno Neveu ses analyses précédentes relatives au jansénisme. Mais d'autres raisons jouèrent. Hétéroclite, qui relève de l'évolution politique générale de l'époque, par exemple l'attachement aux principes régaliens du monopole de l'État pour la collation des grades, y compris en théologie. La médiocrité de la culture du clergé français et de son épiscopat à cette époque. Les susceptibilités de Rome en une période de restauration puis d'expansion du pouvoir pontifical et de l'autorité des congrégations romaines. L'obsession gouvernementale d'uniformiser les lieux d'enseignement. Bruno Neveu, curieusement, montra qu'un accord aurait pu s'établir entre les deux puissances, en France et au Saint-Siège, entre gallicanisme et ultramontanisme, et qu'il fut même envisagé par les chancelleries de part et d'autre. Mais le mouvement laïcisant de l'histoire fut le plus fort, et ses facultés disparurent en 1885 par une sorte de consensus honteux entre Jules Ferry et l'Église. Bruno Neveu aurait pu rester ainsi, se partageant entre ses doctes recherches et ses enseignements, d'ailleurs très suivis, mais une proposition lui fut faite qu'il acceptait avec enthousiasme. Même s'il eût sans doute préféré une prélature plus romaine. Partir à Oxford pour y diriger la maison française. Comme professeur associé titre et statut rarissime à All Souls College. Il reçoit le diplôme de Master of Arts d'Oxford et ceux qui ont partagé sa vie oxonienne évoquent sa gestion efficace et consciencieuse, conduite avec tact, délicatesse et humour. Parmi eux, notre collègue Alain Besançon, qui lors de la cérémonie de remise de son épée à Bruno Neveu, qualifia justement cette curiosité enjouée, qualité des vrais sages, de Trapelli, nom ingrat d'une vertu louée par Aristote, par saint Thomas et par saint Jean Bosco, et que les anciens opposaient à une sorte de rusticité revêche, signe de sainteté. En tout cas, Bruno Neveu retrouva dans cette superbe ville, ponctuée d'admirables édifices religieux et universitaires, attaché à ses traditions, à la culture classique, ce qu'il avait tant aimé à Rome. Un art de la maintenance, un souci du décorum et du protocole, une fidélité en profondeur au catholicisme, un amour du legs ancestral, un sens du rituel intact, fut-il déçué. Il y appréciait les dîners solennels en smoking, les cérémonies en toge, les merveilles musicales et liturgiques des offices anglicans. Il n'était sans doute pas dupe de ses manières et de leur côté suranné, mais il s'en amusait avec bienveillance, avec malice. J'ai l'impression qu'il aimait les institutions qui escortent, qui encadrent, qui valorisent, comme si elles protégeaient d'une fragilité ou se substituaient au père. À deux reprises, écrit-il, j'ai eu le privilège de capter les images crépusculaires d'une société restée fidèle par une sorte de miracle aux usages, aux rites et au raffinement des siècles précédents. Et Oxford, par ailleurs, ne manquait pas d'évoquer en lui la figure du cardinal John Henry Newman, curé anglican de St. Mary's, animateur du mouvement d'Oxford, qui se convertit au catholicisme pour renouer avec la pureté originelle de sa foi. En se spécialisant dans l'histoire culturelle et religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles, Bruno Neveu n'a pas exhumé un vieux savoir, ni prolongé des redites théologiques. Il a créé un domaine neuf, un domaine original, au vaste périmètre, aux perspectives immenses, qui combine la théologie, le droit, les usages canoniques, la philosophie, l'histoire, la philologie, la littérature, les beaux-arts. Son champ d'érudition supposait une culture quasi universelle, qu'il détenait par labeur et par goût. Il devint ainsi un pionnier dans cette discipline spéciale et composite, cherchant à éviter que l'examen historique du christianisme ne perde son objectivité dans un temps où l'université, selon lui, préférait réinventer le sens de l'histoire, voire chercher l'histoire totale, plutôt que maîtriser l'historiographie. Il sentait bien que l'histoire comme science entretenait des rapports problématiques avec la théologie. Il le dit nettement, d'ailleurs, dans les premières lignes de sa longue étude sur l'autorité du souverain pontificat au XVIIe ou XVIIIe siècle. Je cite, « Pour se voir reconnaître par le savoir universitaire la respectabilité d'une discipline académique, l'histoire du christianisme a dû, peu à peu, s'éloigner de la théologie, mais cette séparation douloureuse ne lui a pas assuré, en fin de compte, une complète crédibilité. » Et il continue en ces termes, « La part du transcendant dans l'histoire décide pourtant de toute orientation critique ultérieure, suivant que l'on tient l'Église pour héritière des promesses évangéliques ou pour une société purement humaine, dès l'époque de son fondateur ou par altération progressive, les historiographes du christianisme varient du tout au tout, autant que leur diversité, c'est leur luxuriance qui déconcerte. » Les travaux de Bruno Neveu ont ainsi apporté une contribution neuve et significative à la compréhension des processus complexes par lesquels la critique historique et philologique s'est dégradée, puis imposée, au prix de conflits avec les Églises, lesquelles ont résisté vigoureusement à l'introduction de méthodes de plus en plus exigeantes pour examiner les origines du christianisme et les premiers siècles chrétiens. Sa mort prématurée l'a privé de poursuivre au moment tant souhaité par lui de l'ouverture quasi complète des archives du Saint-Office et de l'index, où l'attendait un foisonnement de dossiers inédits. Il comptait prolonger sa recherche en s'intéressant aussi aux polémiques entre savants catholiques et savants anglicans, renouant ainsi avec Oxford et avec le cardinal Newman en quelque sorte. Enfin, il prévoyait une étude complète de la notion d'hétérodoxie, pour cerner précisément la complexité de cette dissonance et de cette divergence dogmatique qui s'est peu à peu substituée à la bonne vieille hérésie de jadis, si j'ose dire. Personne avant Bruno Neveu n'avait réussi cet exploit en se fondant sur un travail scientifique qui n'avait pas d'emblée une visée apologétique, d'accroître l'intelligibilité du magistère romain et de ses décisions doctrinales et dogmatiques. Il a su analyser, au sens psychologique, voire psychanalytique du terme, l'histoire de la pensée religieuse en Europe, non en la décrivant froidement, mais en pénétrant son évolution intime, parfois masquée, mais révélée par son verbe, par ses doutes, par ses joutes, par ses postures. Son activité érudite, qui était toute sa vie, exigeait d'inlassables recherches et une compétence infinie. Mais tout en se concentrant à son métier de chercheur, Bruno Neveu accepta bien des tâches officielles. La diversité de ses talents et de son savoir protéiforme lui permirent en particulier d'être choisi pour présider l'École pratique des hautes études de 1994 à 1998. Il anima également plusieurs commissions, une bonne douzaine, notamment celle des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et celle des travaux historiques de la ville de Paris, ce qui lui valut des reconnaissances publiques. Il présida bien des comités scientifiques, français ou internationaux. Il reçut les décorations les plus prestigieuses, appartient à divers autres étrangers, notamment italiens et portugais, et je dois dire qu'il ne détestait pas les décorations. Il était aussi célébré par ses pairs universitaires. Il fut reçu, entre autres, docteur honoris causa du King's College au Canada. Il participa à diverses académies italiennes, tout en étant corresponding fellow de la Royal Historical Society. Bref, il ne fut pas insensible aux honneurs, mais, comme il répétait le jour de son élection, « Je me sens comblé et légèrement étourdi », avoua-t-il. Partagé entre exaltation et nostalgie, il vit dans cette élection dans notre académie une consolation face à la marche du temps, quand, je cite, « l'âge des impressions indistinctes qui nous rendent heureux en nous divertissant fait place inexorablement au temps du découragement, à la confusion du soir. » Mais son souvenir ne s'efface pas. Ses grands livres sont encore fréquentés par les étudiants et par les chercheurs. Je pense à L'erreur et son juge, surtout à la partie où il étudie les procédures et les critères de censure appliqués par Rome au jansénisme. Je pense au beau recueil d'articles qui a pour titre « Érudition et religion au XVIIe et XVIIIe siècle » ou à sa thèse de droit. Les archives monumentales ne le rebutaient pas, comme on le voit dans son examen des souvenirs de l'érudit historien Alfred Maury, professeur au Collège de France en 1862, directeur général des archives en 1868, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui, curieusement, à la fin de sa vie, se passionna pour le sommeil, pour les rêves et pour l'inconscient. en précurseur de Freud. Mais les études de Bruno Neveu, quelque savantes qu'elles fussent, ne manquaient pas d'humour ou de facétie. Et certains de ses articles se lisent encore comme du La Bruyère ou du Saint-Simon. Tel son amusant, un rival de l'avare, le nonce Varèse à Paris, 1676-1678, qu'il a publié en 1982 dans le Journal des Savants, car le style de Bruno Neveu ne se compare à aucun autre, et surtout pas dans le milieu scientifique. S'y mêle l'érudition la plus aiguë et un goût de l'insolite parfois déconcertant. Le lecteur passe du vertige, qui le saisit devant des considérations immenses et sublimes, qu'il n'est pas toujours certain de comprendre, à des surprises fantastiques face à des détails bizarres, subitement grossis démesurément, et partout des traits d'humour impromptus, une drôlerie badine frôlant les apiques les plus inquiétants. Le foisonnement lexical de son vocabulaire théologique, inventif et parfois anachronique, accentue ce sentiment d'étrangeté et du miroitement. C'est une allure à saut et à gambade, comme aurait dit Montaigne. Peut-être ressortissait-elle à ses origines grenobloises, donc stendhaliennes. On est tenté de le penser. Car Bruno Neveu, avant d'être parisien, romain ou auxonien, était un dauphinois. Son ami, notre ami Marc Fumaroli, en lui remettant son épée d'académicien, lui rappela cette formule tirée de la vie d'Henri Brûlard. Le dauphinois réfléchit et s'entretient avec son cœur. Certes, Bruno Neveu ne pouvait que difficilement se réclamer du jeune Henri Bayle. Révolté contre son père, libertin anticlérical, admirateur de Voltaire, jubilant à l'annonce de l'exécution de Louis XVI, pourfendeur des dévots de tout acabit. Mais le vrai Stendhal a vite dépassé ses insurrections enfantines pour être lui aussi un amoureux fasciné des arts et des beautés de l'Italie catholique. Et nos deux grenoblois, Neveu et Stendhal, eurent en commun une vertu supérieure, la haine des hypocrites. Ceux qui ont eu la chance de croiser Bruno Neveu, comme vous-même, ses confrères académiciens et ses amis, et plus encore d'être du cercle de ses intimes, rappellent tous l'urbanité de ce lettré subtil et nuancé, son humour, son maintien posé, la délicatesse de ses tenues et de ses attentions, sa ténacité dans la quête du vrai, sa pénétration morale, son sourire charitable, sa sensibilité extrême, le charme de sa conversation. Comme le révèle encore le simple contact avec son style ciselé, vif et savoureux, rien de trivial, rien de vernaculaire ne vient jamais troubler son esprit et sa disponibilité intellectuelle. Il était diplomate et courtois, posé et paisible, sans aucune forme de démagogie, insensible aux modes, notamment vestimentaires, et aux excitations du moment. Au fond, il aurait pu devenir un parfait prélat romain, un de ces cardinaux verts, auquel un de ses amis ici présents, Laurent Stefanini, aimait à le comparer. Mais sa vocation s'était orientée autrement, sans rien céder sur la défense avisée et exigeante et fidèle de la cause romaine. Il avait choisi de ne pas se disperser, cloisonnant de façon étanche ses affinités et ses amitiés, se méfiant des fédérations amicales indiscrètes, cultivant ses intérêts et ses proches tour à tour plutôt qu'ensemble. Ainsi put-il centrer sa vie sur ses travaux. Ma vie et mes recherches se rejoignent et se recoupent de si près que l'essentiel aura été dit une fois rappelé que le cours de mon existence, peu sollicité par les soucis extérieurs ou domestiques qui affectent inévitablement l'organisation intellectuelle, a favorisé une sécurité, un bien-être, une régularité fructueuse à l'étude. On se souvient du dicton latin « Aut liberi, aut libri », soit des enfants, soit des livres. Une des sources de sa piété se trouve sans doute dans cet irénisme, dans cet attachement à l'enfance, dans sa dévotion à sa mère, très croyante, dont il ne se sépara vraiment, et sans d'ailleurs jamais se remettre de ce deuil qui le déprima, qu'à sa mort en 1991. Facile à blesser, susceptible, voire pointilleux, il surmonta les épreuves inévitables de la vie avec secret, en pratiquant l'histoire comme méditation morale ou comme exercice spirituel. Comme il existe toujours un lien profond et suggestif entre le maître et ses sujets, il me semble que la première grande étude de Bruno Neveu peut nous éclairer sur l'idéal qui l'animait. En consacrant, au seuil de sa magnifique carrière, sa thèse de troisième cycle à l'abbaye de Pontchâteau, il montrait d'emblée la fascination pour la pureté de la foi et pour la beauté des âmes saintes, mais qui ne se laissent jamais apprivoiser. Ce marquis de Pontchâteau, neveu de Richelieu, riche, bien-né, comblé de bénéfices dès son enfance, trouva dans la vocation religieuse un appel à se dépouiller de tous ses biens. Il se retira de toute vie mondaine, vivant chichement de ses mains à Port-Ruel-des-Champs comme simple jardinier. Mais pourtant, cet homme de Dieu fut aussi capable de quitter son désert et son ascétisme pour aller à Rome servir la cause de la résistance jansénisme à la politique religieuse de Louis XIV. Ce mélange d'abnégation et d'ardeur devait convenir à Bruno Neveu, qui combinait lui aussi piété et insoumission, intériorité jalouse et goût du contact, ombre et lumière. Mesdames et messieurs, je pense que Bruno Neveu, excellent latiniste, n'aurait pas détesté que je me réfère en terminant aux dernières lignes de l'éloge que Tacite consacra à son beau-père Agricola. Je cite « S'il est un lieu pour les mânes des purs, si, comme les sages le croient, les grands âmes ne s'éteignent pas avec les corps, puisses-tu reposer en paix et nous rappeler, loin du regret stérile et des lamentations, vers la contemplation de tes vertus. Voilà le véritable culte, voilà la piété véritable d'un entourage proche. » Bruno Neveu avait raison de croire, comme Tacite, qu'il ne savait pas que c'était cela, en la communion des saints. La valeur et la bonté des êtres exceptionnels rayonnent, en effet, éternellement, et elles demeurent, pour ceux qui restent, une vraie nourriture spirituelle.
Vous venez d'entendre le ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, prononcer la notice de son prédécesseur Bruno Neveu. Xavier Darcos a été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section morale et sociologie le 26 juin 2006 au fauteuil numéro 7.